France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est à la recherche d'Iris Murdoch, philosophe écrivaine, que nous avons décidé de nous lancer. Et aujourd'hui, cette recherche prend fin avec cette question: Iris Murdoch serait-elle la Simone de Beauvoir anglo-saxonne? Parce qu'elle a, elle aussi, préféré l'écriture romanesque, parce qu'elle a, elle aussi, décrit des personnages féminins aliénés, et parce qu'elle a, elle aussi, eu une vie amoureuse et sexuelle loin des conventions, est-il pour autant légitime de concevoir son éthique comme féministe?
Oui, je suis certainement féministe. C'est-à-dire que je pense que toutes les femmes, même dans les sociétés modernes, ne sont pas libres et il faut se battre. Le problème est celui de la tactique. C'est-à-dire que je ne suis pas une féministe d'un genre séparatiste. J'entends par ça quelqu'un qui veut que les femmes se rassemblent, écrivent des livres de femmes et développent des idées sur l'intelligence féminine, la sensibilité, l'intuition ou toute autre chose de ce genre. Je pense que la libération des femmes passe par la sortie des femmes du ghetto, non pas en inventant un nouveau ghetto plus agréable, mais en sortant directement et en étant partout dans la politique, les arts, les syndicats et la vie ordinaire. Je veux dire qu'il s'agit de rejoindre le flux de la race humaine qui a été jusqu'à présent le domaine des hommes. Je ne suis pas une séparatiste, c'est vraiment une question de tactique.
Bonjour Camille Brown.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Vous êtes doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous préparez une thèse sur Iris Murdoch. Vous lui avez déjà consacré plusieurs articles, ainsi qu'un colloque international en avril 2024. Question rituelle cette semaine. Comment en êtes-vous venue à travailler Iris Murdoch? Comment l'avez-vous découverte?
Alors, je l'ai découvert à la fin de mon master en philosophie contemporaine. En lisant un ouvrage dirigé par Sandra Laugier qui s'appelle « Éthique, littérature et vie humaine », dans lequel sont réunis plusieurs philosophes, Jacques Bouvresse, Cora Diamond, Martha Nussbaum, Jean-Jacques Rosa, et en fait finalement un petit peu partout, dans tous les chapitres de l'ouvrage, revenait ce nom d'Iris Murdoch. Et moi à l'époque, je venais de défendre un mémoire sur le rapport des mots au réel, et je voulais prolonger en fait cette question de l'impact des mots sur notre réalité par une quête un petit peu plus éthique, un petit peu plus morale. Et je voulais me demander quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ces mots que l'on emploie au quotidien et qui il me semblait qu'il faisait beaucoup de choses, mais dont on parlait pas suffisamment, en fait, de ce qu'il faisait sur nous. Et précisément, en lisant cet ouvrage, un petit peu par hasard, qui s'intitule « Éthique, littérature, vie humaine », j'ai lu vraiment précisément ces mots d'attention au langage. Et je me suis dit, mais c'est parfait, c'est sur ça que je veux travailler, sur l'attention au langage, et en quoi cette attention, précisément, peut former une nouvelle éthique.
Et ça, vous l'avez trouvé tout de suite lié à Iris Murdoch.
Exactement, parce qu'en fait, ces philosophes parlaient en fait d'Iris Murdoch. Jacques Bouvresse parlait aussi donc de cet entretien un petit peu mythique au sein des études murdochiennes qu'a donné Iris Murdoch donc dans les années 70 à Brian Magee donc sur la BBC où elle explique
oui c'est vraiment une on l'a diffusé cette semaine. C'est vraiment un entretien mythique, en fait.
C'est un petit peu mythique au sein des études murdochiennes, oui, parce qu'en fait déjà c'est la seule femme cet entretien est paru sous la forme d'un ouvrage. En fait, le but de cet ouvrage et puis le but des entretiens qu'avait mené Brian Magee à l'époque, c'était de montrer quels étaient les grands penseurs de la philosophie contemporaine. Donc on a dans cet ouvrage Isaiah Berlin, des collègues aussi d'Iris Murdoch d'Oxford, mais en fait c'est la seule femme dans cet ouvrage. Et elle est interrogée sur ce rapport entre littérature et philosophie. Donc c'est un petit peu mythique parce que c'est l'un des seuls entretiens où elle parle en fait véritablement d'elle en tant qu'écrivaine et en tant que philosophe, et pourquoi en fait ces deux disciplines sont à séparer et en même temps aussi à penser ensemble.
D'où d'ailleurs ce lien sur l'éthique au langage, enfin cette idée d'attention au langage qui a tout de suite retenu justement votre attention, Camille Brown. Mais quel est le rapport avec le féminisme d'Iris Murdoch? On a entendu cette archive de 1985. Iris Murdoch se dit clairement féministe. Par contre, elle n'a fait paraître aucun essai de féminisme. On va tout de suite répondre à la question est-elle la Simone de Beauvoir à l'anglo-saxonne? Bah pas vraiment, vu qu'elle n'a pas écrit de deuxième sexe. En revanche, dans ses romans, il y a des personnages féminins. On en a parlé cette semaine, mais on va y revenir aujourd'hui avec vous. Qui incarne cette voix justement de l'expérience féminine, malmenée, maltraitée, soumise? Néanmoins, quel est le rapport entre cette éthique d'attention au langage et ce féminisme, on va dire, en creux, ou qu'on peut lire aujourd'hui, mais qu'elle ne revendiquait pas forcément à travers sa philosophie?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une question très complexe, et c'est pour ça que j'y ai dédié voilà, une thèse de doctorat.
Oui, et surtout votre thèse, oui, c'est vrai.
Effectivement, c'est pas si simple, et puis le lien n'est pas si évident au premier abord. Bon, déjà, chez Iris Murdoch, il y a cette question d'attention au langage qui est différente de l'éthique de l'attention. Et c'est moi qui ai proposé de réunir les deux ensemble. Ensuite, sur le féminisme, donc...
En quoi les deux sont différents? Juste qu'on s'arrête sur ce point, oui, Camille alors... Brown. L'attention au langage et l'éthique de l'attention, en quoi c'est vraiment différent dans la mesure où il y a quand même ce concept d'attention qui les réunit?
Oui, tout à fait. Dans l'éthique de l'attention, au départ, les concepts les plus importants sont la perception, la vision. Mmh. C'est quelque chose qui a vraiment guidé les études murdochiennes dans les années 2000-2010, où on ne parlait pas encore en fait d'attention au langage. C'était plutôt une attention prise du point de vue de la perception. Donc c'est ça qui intéressait vraiment les philosophes de la morale, en France, mais aussi au Royaume-Uni, aux États-Unis. Ensuite, c'est vraiment depuis les années, je dirais, 2020, quelque chose comme ça, où la philosophie du langage, en fait, a été de plus en plus travaillée chez Iris Murdoch. Au départ, on la considérait pas vraiment, en fait, comme une philosophe du langage. On la considérait comme une romancière, on la considérait comme une philosophe morale. Mais finalement, dire que c'était une philosophe du langage, voire dire que c'était une philosophe du langage ordinaire, alors ça, c'était même impossible de le dire. Et là, je pense à un philosophe qui s'appelle Niklas Forsberg, qui lui a été l'un des premiers à dire mais oui, en fait, elle s'inscrit dans cette tradition de la philosophie du langage ordinaire. Elle a été sous l'influence de Ludwig Wittgenstein. Alors j'aimerais tout de suite préciser que ce n'était pas son étudiante, qu'elle l'a rencontrée une fois seulement, grâce à son amie Elisabeth Anscombe, qui elle, pour le coup, était une étudiante de Wittgenstein. Donc voilà, j'aimerais juste préciser ça. Toutefois, en fait, en Grande-Bretagne, dans les années 50, l'influence de Wittgenstein était comme un filet, en fait.
Oui. C'était vraiment... Pour reprendre le terme du premier roman d'Iris Murdoch, c'est le filet.
Voilà. Et donc, le lien avec...
Encore maintenant, un peu, d'ailleurs. Hein, Wittgenstein, oui, il exerce une aura dans le champ analytique, philosophie du langage, qui est assez dingue.
Oui, et précisément, pour terminer de répondre à votre question, aussi dans les études féministes, en fait, finalement, aujourd'hui, Wittgenstein est une source d'inspiration pour de nombreuses, je dis nombreuses parce qu'on est vraiment beaucoup de femmes philosophes, en fait, à s'inspirer de ces écrits sur l'ordinaire, sur aussi cette question du langage comme quelque chose de profondément social. Et en fait, ça, c'est très bénéfique pour le féminisme parce que cela montre que le langage n'est pas quelque chose de figé et qu'il est pétri, en fait, de rapports sociaux, de normes, de rapports aussi de classe, de domination, et que c'est un espace aussi de lutte pour l'émancipation, le langage. Et ça, c'est venu grâce à Wittgenstein qui a permis de comprendre ça, en fait. Comment le langage, et précisément avec les recherches philosophiques, comment le langage peut se travailler au quotidien et qu'est-ce qu'il dit de nous quand on dit quelque chose de lui, en fait. Donc voilà, et aujourd'hui, on a par exemple avec un collectif, donc je pense à des femmes comme Sandra Logier, Jasmine Trachtler, on travaille depuis quelques années, qui sont philosophes, on travaille depuis quelques années à montrer ce lien entre Wittgenstein et le féminisme, qui évidemment n'est pas évident quand on sait le sexisme historique de Wittgenstein, quand on sait la misogynie de l'époque, mais en fait, la clé est là, c'est de dire peut-être...
Mais vous séparez l'œuvre de
l'auteur,
c'est ça.
En même temps, l'une de ses étudiantes favorites était une femme, c'était Elisabeth Anscombe. Donc,
Ben justement, on va écouter une anecdote, celle de la rencontre entre Ludwig Wittgenstein et Iris Murdoch. C'était en 1947, c'est ça, je me trompe pas?
Oui, tout à fait.
Le 23 octobre. Et on va tout de suite beaucoup mieux comprendre Camille Braun. Alors, pas à travers ce texte, on va y revenir parce que l'échange est assez lunaire. Mais ce lien entre éthique de l'attention, attention au langage et féminisme chez Murdoch.
Il avait deux chambres vides et étroites, semblables à des casernes. K10 dans We Will's Court, au sommet d'une tour gothique, sans livre ni salle de bain. Seulement deux chaises longues et un lit de camp. Elle le trouvait très beau, plutôt petit, avec un visage vif et attentif et ses yeux très perçants. Il avait l'air d'un clochard. Il dit à Iris Murdoch, « C'est comme si j'avais un pommier dans mon jardin et que tout le monde emportait les pommes » et les envoyait dans le monde entier. Et vous demandez, puis-je avoir une pomme de votre arbre ? Iris Murdoch remarqua, « Oui, mais je ne suis jamais sûr, quand on me donne une pomme, qu'elle provienne vraiment de votre arbre. » Il répond, « C'est vrai. Je dirais même que ce ne sont pas de bonnes pommes. À quoi bon avoir une discussion philosophique ? C'est comme avoir une seule leçon de piano. » Il était célèbre pour ne pas penser que les femmes, de toute façon, pouvaient faire de la philosophie. « Les hommes sont mauvais, mais les femmes sont pires », faisait-il remarquer.
Nous venons d'entendre un extrait du livre de Peter G. Conradi, c'est comme ça qu'on dit, Camille Braun ?
Alors, c'est le livre a été dirigé par Justin Brooks, et Peter Conradi a écrit un chapitre.
Et donc, ce chapitre, on vient d'en lire un extrait, c'est donc cette rencontre entre Wittgenstein et Murdoch. Moi, j'ai lu quand même plusieurs fois le texte, donc pour les auditeurs et auditrices qui écouteraient cette émission en direct, je vous recommande quand même d'aller sur le podcast pour réécouter plusieurs fois ce texte, parce que, en fait, cet échange est absurde.
Oui.
C'est-à-dire que donc le « il » qu'on entend, c'est Wittgenstein. Iris Murdoch le rencontre, décrit sa chambre, qui sont en fait deux pièces, où il y a quand même une chaise longue, deux chaises longues et un lit de camp. Ça colle très bien avec l'image un peu farfelue qu'on peut se faire de Wittgenstein, qui n'est que dans l'esprit et dans la philosophie. Et puis tout à coup, il y a cet échange sur les pommiers. « Puis-je avoir une pomme de votre arbre ?»« Oui, mais je ne suis jamais sûre quand on me donne une pomme qu'elle provienne vraiment de votre arbre. » Comment vous le comprenez, vous, ça, Camille, cette rencontre ?
Alors déjà, juste pour un petit peu de contexte, Peter Conradi était un ami d'Iris Murdoch. Il a écrit une biographie sur Iris Murdoch qui est assez connue et puis bien fournie. Donc je vous invite aussi à aller lire son travail pour une perspective plus historique. Il a été l'un des premiers en fait à travailler l'histoire d'Iris Murdoch. Avant, aujourd'hui par exemple, le célèbre livre Metaphysical Animals de Claire McComile et Rachel Wiseman, c'est vraiment l'un des premiers.
Qui vient de paraître en français sous le titre Le Quartet d'Oxford.
Exactement. Donc Peter Conradi, c'est une référence dans les études murdochiennes. Et là, en fait, il raconte cette mémoire d'Iris Murdoch de sa première rencontre avec Wittgenstein. Je l'interprète d'une manière qui est que Iris Murdoch était fascinée par Wittgenstein, vraiment fasciné, comme beaucoup de gens à l'époque, beaucoup de philosophes d'Oxford. Donc Wittgenstein, lui, était professeur à Cambridge. On sait sa manière de penser la philosophie. Wittgenstein a été professeur, puis il a détesté le monde universitaire, il s'est engagé dans la guerre, il a été professeur dans une école primaire. Enfin, c'est quelqu'un, au départ, qui vient du monde des sciences, de l'ingénierie. Donc, c'est vraiment une figure mythique et en même temps qui est terrifiante pour Iris Murdoch. Et d'ailleurs, Peter Conradi, dans ce même chapitre, un petit peu plus loin, écrit que Iris Murdoch rêva toute sa vie de Wittgenstein, jamais de Sartre. Donc c'est quand même.
Alors qu'elle a quand même eu un choc avec ça. Elle a consacré une émission.
Exactement.
Ça a été quand même un lancement pour elle dans l'écriture romanesque et philosophique.
Exactement. Mais parce qu'en fait, Sartre, elle l'a digéré. C'est-à-dire qu'elle a, elle a lu, puis elle l'a digéré. Wittgenstein, et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il inspire toujours aujourd'hui des rangs de philosophes. Mmh. C'est-à-dire que sa pensée est inépuisable. Et au départ, Iris Murdoch, en fait, elle lit beaucoup le Tractatus. C'est vrai que c'est ce que disait Frédéric Worms au premier épisode du podcast. C'est surtout le Tractatus qu'elle analyse, qu'elle critique, qui lui fait peur, parce que le Tractatus, en fait, donne une image du langage très logique. Très froide. Il laisse pas beaucoup de place à la vie intérieure, à l'intimité qu'on peut avoir avec notre langage. C'est la fameuse thèse de l'impossibilité du langage privé. Or, pour Iris Murdoch, si le langage ne peut pas être privé, effectivement, il est public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire des phrases dans notre tête si ce n'est pas avec des mots que l'on partage. Mais pour autant, elle est convaincue qu'il y a une intimité. En fait, possible avec le langage en nous-mêmes. Et finalement, c'est intéressant parce que elle est contemporaine de cette période, les années 40-50, où Wittgenstein va écrire les recherches philosophiques, donc les Philosophical Investigations, que va traduire Hans Combe, que va publier Hans Combe. Et en fait, Iris Murdoch est directement sous l'influence de Wittgenstein via Elisabeth Hans Combe, qui est son amie d'Oxford, donc depuis les années 1938, quand Iris Murdoch arrive à Oxford. Et en fait, c'est vraiment Elisabeth Hans Combe qui explique à Iris Murdoch la philosophie de Wittgenstein. Elle lui explique que le langage est fait de pratiques, qu'il est vivant, qu'il est lié à la perception. Et voilà. Et c'est vraiment via Hans Combe qu'Iris Murdoch veut, en fait. Elle veut absolument rencontrer Wittgenstein. Et d'ailleurs, elle n'y arrive que grâce à Elisabeth Hans Combe.
Et cette rencontre est décevante.
Elle est très décevante, oui.
Parce que là, vraiment, c'est-à-dire qu'elle s'attend quand même à peut-être percer le mystère de Wittgenstein, à discuter avec lui de langage. Alors, il faut quand même dire qu'à cette époque, en 47, Iris Murdoch n'a pas encore écrit. Hein. Oui. Son premier essai, ce sera sur Sartre, justement, ça paraîtra au début des années 50, son premier roman. Pareil, donc pour l'instant, en fait, elle est plus, on va dire, en formation philosophique et elle ne perce pas du tout le mystère du langage de Wittgenstein. Elle ne vient pas à discuter de ces thèses que vous avez évoqué, Camille Braun, à savoir le langage est social, d'accord, mais n'y a-t-il pas une forme de langage privé? Comment penser un langage qui relèverait de l'intériorité? C'est ça la question qui anime Murdoch.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle commence à penser le langage avec des essais comme Against Dryness.
C'est un article.
Ouais. Exactement, Thinking and Language. Et puis aussi, on a cette question sur le langage dans l'idée de perfection. C'est vraiment les trois textes où elle va penser le langage. Mais au début, en fait, elle baigne dans un environnement, donc les années 40 à Oxford, où c'est vraiment le Tractatus en fait qui a été réinterprété.
Il est interprété comment?
Plutôt ce qu'on peut appeler le positivisme logique, donc qui est un courant de la philosophie. Alors c'est un peu pompeux dit comme ça, mais où en fait la vérité doit pouvoir se formuler. La vérité est à faire. Donc c'est un courant. En fait, on doit pouvoir prouver. Ce qui existe, et puis si on ne peut pas le prouver, si on ne peut pas le dire, si on ne peut pas l'exprimer, alors ça n'existe pas. Mais ça, en fait, c'est une interprétation de Wittgenstein, notamment faite par des gens comme Heyer, qui en fait ont des postes ailleurs dans les années 40-50, et il est dans un des collèges d'Oxford, je me souviens plus bien, je crois que c'est Christ Church, et lui en fait il a été aussi fasciné par Wittgenstein, le cercle de Vienne, il a ramené en fait toute cette philosophie allemande à Oxford, sauf qu'en fait il en a fait quelque chose d'extrêmement radical en disant que tout ce qui ne peut pas se vérifier est un non-sens. Et en fait, Iris Murdoch arrive à Oxford en 1938 dans cette atmosphère-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est juste avant la guerre. C'est quand même intéressant de se dire que la philosophie dominante qui précède la guerre, c'est ce type de philosophie-là, c'est-à-dire qu'il ne laisse plus de place, à une forme de mysticisme, de spiritualité, à une forme aux arts, en fait, tout simplement, où tout ce qui existe ne se prouve pas forcément, ne se vérifie pas forcément. Et en fait, à ce moment-là, Iris Murdoch baigne dans une philosophie où l'éthique est un petit peu réduite à néant, en fait. Donc, va se passer la Seconde Guerre mondiale. Iris Murdoch va terminer ses études brillamment. C'était vraiment une étudiante brillante, admirée par beaucoup de ses collègues, par beaucoup de jeunes femmes aussi, parce que c'était quelqu'un de très magnétique. Et donc, elle va aller à Londres, voilà, travailler pour le Trésor public, vous l'avez dit dans vos précédents épisodes. Elle s'engage dans les camps de réfugiés, elle va en France.
Elle s'éloigne un peu de la philosophie quand
même. Elle s'éloigne complètement de la philosophie, précisément parce qu'en fait, ses interprétations de Wittgenstein, ou même au-delà de Wittgenstein, juste la philosophie qui domine à ce moment-là à Oxford, pour elle, est désincarnée et pétrifiée et froide. Elle est sèche, exactement. C'est une morale très sèche. Il y a quelques professeurs qui essayent de résister, des gens comme Donald McKinnon, qui inspire beaucoup Iris Murdoch, mais bon, c'est très peu, en fait, par rapport aux autres professeurs, c'est vraiment réduit à peau de chagrin. Et donc, Iris Murdoch, vous en avez parlé au premier épisode, rencontre Sartre à Bruxelles, à la fin de la guerre, et là, effectivement, elle découvre une toute nouvelle éthique. Une éthique de l'engagement, en fait, tout simplement. Une éthique où on parle d'hommes, où on parle d'hommes qui s'engagent, où on parle de gens qui meurent, où il y a de la vie, il y a de la chair, du sang, il y a des choses, des émotions. Et ça ramène, en fait, Iris Murdoch à la philosophie. Et là encore, Wittgenstein n'est pas encore très présent, en fait. Il va vraiment arriver après.
Alors, qu'est-ce qui fait, justement, qu'elle revient à Wittgenstein, sachant que cette rencontre est décevante, lunaire, j'ai dit, c'est vrai, et surtout qu'en plus, il est précisé que Wittgenstein est persuadé que les femmes ne peuvent pas faire de la philosophie. Donc, bon, on n'a pas du tout envie de travailler sur ces textes. Et en plus, comme vous l'avez dit, Camille Braun, la philosophie qui se fait à l'époque en Angleterre est extrêmement sèche, aride et n'a pas beaucoup de vie. Qu'est-ce qui fait que Iris Murdoch va, malgré tout, vouloir faire de la philosophie et renouer avec cette philosophie qu'on appelle analytique et qui relève de Wittgenstein et du langage?
Oui, tout à fait. Je dirais que chez Iris Murdoch, de mon point de vue, je vois vraiment trois grosses influences. D'abord Sartre, Simone Weil et Ludwig Wittgenstein, vraiment. Et puis c'est intéressant parce que les trois rejoignent en fait l'éthique de l'attention au langage, dans le sens où avec Sartre, c'est l'existentialisme, donc un engagement politique qui est vraiment extrêmement présent chez Iris Murdoch. C'est quelqu'un d'engagé, vraiment fondamentalement. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs et auditrices à lire, si possible en anglais, le dernier ouvrage de Gary Browning, Iris Murdoch and the Political, qui montre en fait vraiment son engagement politique, féministe, tout ça. Ensuite, la seconde influence, c'est Simone Weil avec l'attention. Donc cet engagement va être lié à l'attention. Et enfin, la dernière influence, Wittgenstein, c'est le langage.
Donc éthique, voilà. Attention, langage.
Exactement. Pour moi, c'est vraiment le lien, en fait, entre ces trois influences. Après Sartre, donc elle finit par le dépasser parce qu'elle trouve que son éthique est un petit peu trop solipsiste. Et en fait, c'est concomitant à ses premières lectures de Simone Weil en 1951. Elle lit Weil et là, elle découvre une éthique donc de l'attention, la bien nommée éthique de l'attention, où elle voit que le perfectionnement de soi, il n'est pas dans l'individualisme. Le perfectionnement de soi, en fait, c'est paradoxal, mais il est présent quand on s'élance vers l'autre, et précisément dans cette difficulté, parce que c'est extrêmement difficile d'être attentif véritablement aux autres. Et ensuite, après Weil, donc là on est dans les années 50, elle va essayer de penser, en fait, la personne humaine, parce qu'on est dans un temps où, politiquement, on a deux grandes tendances en Grande-Bretagne, que sont le socialisme et le libéralisme. Donc elle essaye de penser ces deux mouvements, et toujours en gardant à l'esprit, hein, l'existentialisme, l'attention, tout ça elle a en tête. Et en fait, elle voit que politiquement, le socialisme ne marche plus, en fait, ne fonctionne plus, il ne parle plus beaucoup aux gens. Et donc, elle écrit un essai qui s'appelle « House of Theory », où elle essaye de comprendre pourquoi le socialisme ne fonctionne plus en Grande-Bretagne. Et en fait, c'est là qu'elle va commencer à comprendre que s'il ne fonctionne plus, c'est parce qu'en fait, les mots ne touchent plus les gens et ne font plus sens, en fait, dans l'esprit des Britanniques. Et donc, petit à petit, elle va revenir au langage et elle va comprendre que il faut passer par une enquête conceptuelle. Et en fait, l'enquête conceptuelle, qui c'est qui théorise ça? C'est précisément Wittgenstein.
Mais elle va aussi revenir d'une certaine manière, ou en tout cas entrer tout de suite dans ce travail du langage, parce que on a cessé de le répéter, mais Iris Murdoch, c'est une philosophe qui écrit des romans. Et d'ailleurs, sa philosophie se trouve dans ses romans. Donc on va tout de suite écouter un extrait de son roman Le Prince Noir, qui a été publié en 1973.
Dormir ? Avec mon esprit dans cet état ? Mon mari m'a envoyé en enfer. Il m'a ôté toute ma vie. Il m'a gâché le monde. Je suis aussi intelligente que lui. Il m'a frustrée de tout, en bloquant tout. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas penser. Je ne peux pas être à cause de lui. Son fichu talent rampe sur tout. Il m'enlève toutes les choses et les transforme en choses à lui. Je n'ai jamais été moi-même et je n'ai en rien vécu ma propre vie. J'ai toujours eu peur de lui, voilà le fin mot de l'histoire. Tous les hommes méprisent toutes les femmes, à vrai dire. Et à vrai dire, toutes les femmes ont peur de tous les hommes. Les hommes sont physiquement plus forts, voilà le fin mot de l'histoire, voilà ce qu'il y a derrière tout ça. Naturellement, ce sont des brutes, ils peuvent toujours avoir le dernier mot. Demandez à n'importe quelle pauvre femme dans les taudis, elle sait. Il m'a fait un œil au beurre noir, comme n'importe quel vulgaire braillard, n'importe quel mari ivrogne, comme ceux dont on entend parler dans les tribunaux. Il m'a déjà frappé auparavant, oh, ce n'est pas la première fois de toute manière. Je suis tout aussi intelligente que lui. Il n'a pas voulu me laisser prendre un emploi. Je lui ai obéi. Je n'ai rien à moi en particulier. Lui possède le monde. Tout est à lui. À lui. À lui. Je vous remplis de dégoût, hein. Une femme entre deux âges, brisée. Mes pleurnichants. Allez-vous-en maintenant. Laissez-moi, je vous en prie.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mosna-Savoie.
Un extrait du Prince Noir d'Iris Murdoch qui est sorti en 1973. C'est la dernière émission de cette semaine consacrée à cette philosophe écrivaine et on l'a fait avec vous, Camille Braun. On parle de l'éthique, du langage, de l'attention au langage d'Iris Murdoch et notamment dans sa dimension féministe. Est-ce que la dimension féministe d'Iris Murdoch se trouve ici dans cette attention au langage qu'on trouve dans ses romans? Et notamment, je vous pose la question, dans cette manière qu'elle a de décrire de donner la parole aux femmes et à ces expériences, ben voilà, on l'a entendu dans la voix de ce personnage qui s'appelle Rachel, voilà, de soumission, de dégoût d'elle-même.
Oui, tout à fait, tout à fait. Encore une fois, pour un petit peu de contexte, il faut savoir que le féminisme chez Murdoch, c'est une question très controversée, dès le départ. C'est compliqué parce qu'en fait, si au début de sa vie, Iris Murdoch est très engagée politiquement, elle fait partie d'un club à Oxford, qui est lié au Parti communiste. Elle a une vie sexuelle extrêmement libre, elle fascine, elle est belle, elle est extrêmement libre, elle voyage. Bon, c'est vraiment jusque dans les années, voilà, 50, 60, on peut tout à fait la qualifier de féminisme comme on l'entend aujourd'hui. C'est vrai qu'à partir des années, en fait, 70...
Donc au moment où elle écrit ce roman, à peu près.
Ouais, et tout à fait. En fait, c'est un petit peu différent... Après, Iris Murdoch, elle a quand même été aussi mariée plus de 40 ans, même si dans les romans, elle fait une grande critique du mariage, notamment dans Le Prince Noir. Et puis, donc, il y a un petit tournant conservateur, en fait, à la fin de sa vie, notamment parce que une nouvelle vague, en fait, féministe vient toucher à la famille. Donc c'est celle des années 70 où on touche un petit peu à la famille. Et donc là, Iris Murdoch est un petit peu plus prudente. Ce tournant à la fin de sa vie a été en fait compris comme, du coup, Iris Murdoch était ou n'était pas en fait une féministe, et ça a été conjugué avec le fait que dans beaucoup de ses romans, le narrateur masculin, donc le personnage principal des romans, est extrêmement misogyne. C'est toujours un homme extrêmement sexiste. Et en fait, certains commentateurs d'Iris Murdoch ont jugé que du coup, ce narrateur portait la voix d'Iris Murdoch. Et donc, comme en fait, il y avait une corrélation entre le tournant conservateur des années 70 plus le fait qu'elle écrivait des romans dans cette même période, où voilà, les protagonistes dominants étaient masculins, et donc du coup, il y a eu cette forme d'interprétation. Ensuite, une philosophe qui a beaucoup cristalliser cette tension. Elle s'appelle Sabina Lovibon. Elle vient aussi des études wittgensteiniennes. C'est aussi une grande philosophe, à mon sens, féministe, parce qu'elle a quand même, elle est l'une des premières à penser le féminisme chez Murdoch, alors même qu'elle a été critiquée, et je trouve ça fou, elle a été critiquée comme ça aurait été elle qui aurait dit que Iris Murdoch n'était pas féministe. Mmh. Donc ouais, ça a créé une petite guerre en fait de réponses au sein du monde de la recherche entre d'abord l'ouvrage de Sabina Lovibon, Iris Murdoch, Gender and Philosophy, où en fait elle parle simplement de ce tournant conservateur à la fin de la vie d'Iris Murdoch, bien que pour autant elle parle aussi en fait dans ce livre du féminisme d'Iris Murdoch, donc la critique ensuite qui lui est faite est un peu injuste. Ensuite on a eu un article écrit par Nora Malainen où elle dit non, Iris Murdoch est bien une féministe, et puis ensuite voilà, c'est un jeu de questions-réponses sans fin. Et aujourd'hui
voilà, on en est où voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense dans la recherche du féminisme d'Iris Murdoch, voilà, qui, on l'a entendu dans l'archive, se revendique comme féministe,
oui,
mais je le rappelle, n'a pas écrit d'essais féministes et dont les romans décrivent des femmes en situation de soumission en donnant la parole, en ayant des héros narrateurs masculin. Voilà.
Mais tout à fait. Et d'ailleurs, pour clore ce chapitre, quand j'avais fait un séjour de recherche à Oxford, et précisément, j'étais allée voir Sabina Lovibon, et je lui avais posé cette fameuse question, et en fait, elle m'avait expliqué, c'est simplement, Iris Murdoch ne peut pas être considérée comme une militante, comme vous l'avez dit au début, féministe, qui aurait pris la parole dans la rue, pas du tout. Mais pour autant, il y avait bien un féminisme chez elle. Donc Sabina Lovibon elle-même, en fait, a clôturé le débat en disant, mais j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de féminisme. Simplement, il ne faut pas voir le féminisme chez Murdoch au prisme du féminisme d'aujourd'hui, très militant, parfois radical. Voilà. Et en fait, dans le premier extrait d'archives que vous avez diffusé, on entend bien le féminisme d'Iris Murdoch. En fait, ce qu'elle explique, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple les gender studies, ou c'est ce qu'elle craint comme le séparatisme, en fait.
Les réunions non mixtes.
Voilà, ce genre de choses. En fait, ça lui faisait peur. Et parce que pour elle, le but est aussi le but de la littérature, en fait, c'était de toucher le plus de monde possible. Et en fait, pour elle, à cette époque, la personne qui était finalement, qui avait le plus de voix dans la société, c'est pas faux, c'était les hommes, les hommes ordinaires, plutôt bourgeois d'ailleurs, qui correspondent au milieu bourgeois et le milieu dans lequel en fait se déroulent les histoires des romans de Murdoch, et puis en fait blanc finalement, parce que dans les romans d'Iris Murdoch, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de personnages issus de minorités. Alors on a quelques indiennes de temps en temps qui apparaissent sous la figure un peu prophétique, un peu mystique, mais sinon c'est vrai que ces narrateurs sont toujours des hommes blancs, bourgeois, bien installés, etc.
Mais il faut quand même le dire, ces héros narrateurs, là on l'a pas entendu dans cet extrait, on a entendu la voix d'une femme, ces héros narrateurs sont tout le temps mis en échec, c'est-à-dire oui. qu'ils sont perpétuellement dans l'erreur, ils se trompent, ils sont incapables de prendre des décisions. Là, le héros du prince noir, Bradley, c'est un écrivain raté.
Oui, tout à fait.
En fait, disons-le, il dit que c'est un écrivain génial parce qu'il préfère le silence plutôt que l'œuvre médiocre, mais en fait, c'est un écrivain raté qui a travaillé aux impôts pendant toute sa vie et qui n'arrive même pas à prendre un train.
Oui,
donc, qui n'arrive pas à s'occuper et de Rachel, qui est donc la femme de son meilleur ami, qui lui est un écrivain qui réussit. C'est Rachel qu'on entend dans l'extrait. Elle n'est pas capable de s'occuper de sa sœur. Je spoil les auditeurs qui n'auraient pas lu le roman, mais elle se suicide, donc il n'en prend pas soin. Donc en fait, ces héros masculins en prennent, on va dire, en creux pour leur grade. Ils ne sont pas, ce sont des héros paradoxaux, ce sont des anti-héros.
Oui, tout à fait, tout à fait. Dans l'extrait que vous avez diffusé, en gros, le roman débute, c'est extrêmement drôle, où Bradley, en fait, il a l'impression d'être constamment, qu'il y a des petits parasites qui sont autour de lui. Or, les petits parasites, c'est son ex-femme, sa sœur qui revient parce qu'en fait, elle a été rejetée par son mari, qui s'est mis en couple avec une femme plus jeune qu'elle,
avec
et
sa
qui
secrétaire.
Attend un enfant. Ah bah, voilà. Alors ça aussi, c'est important d'en parler, c'est aussi le frère de Christian, donc l'ex-femme de Bradley, qui est un homosexuel, qui fait figure un petit peu de paria. Et là, on a une critique très forte, en fait, de Murdoch contre l'homophobie, en fait, extrêmement présente en Grande-Bretagne dans ces années-là, où les personnes homosexuelles sont considérées comme des êtres un peu étranges, etc. Donc Murdoch, là, on voit son engagement aussi féministe. Elle a vraiment écrit un essai contre l'homophobie. Donc ça, c'est dans les mêmes années. Bon, et dans le roman, en fait, Bradley reçoit un coup de fil donc d'Arnold, qui lui dit « Il faut absolument que tu viennes à la maison, j'ai l'impression, je crois que j'ai tué ma femme. » Donc ça commence comme ça. Et donc Bradley y va, et en fait, effectivement, Rachel s'est enfermée dans sa chambre, elle est couverte de bleu, elle est ensanglantée. Mmh. Et donc c'est là où on a, moi, ce que je...
Et c'est là qu'on a, c'est l'extrait qu'on a entendu.
Voilà, on a vraiment, quand on lit le roman, une forme de plaidoyer féministe quand même, où elle explique qu'elle est dépossédée de tout, qu'elle est complètement dépendante. Et en fait, elle fait pitié. C'est pathétique. Et ça, en fait, pour Iris Murdoch, le fait que les femmes, en fait, soient dans ce type de situation, l'insupportait. Elle méprisait vraiment cette forme de domination-là. Mais c'était pas un propos misogyne. C'était pas pour dire les femmes sont pitoyables parce qu'elles sont inférieures, etc. Non. En fait, c'était de dire la société les met dans cette position-là parce qu'elles n'ont pas accès à la même éducation que les hommes, elles n'ont pas accès aux mêmes ressources financières, et donc elles sont mises dans des situations où elles font pitié. Parce que c'est vrai que Rachel, quand même, dans le roman, c'est assez pathétique.
Oui, et de la même manière, la sœur du héros, Priscilla, est toujours décrite en termes de dégoût. Elle
Exactement.
A le maquillage qui coule, elle a les bas qui sont filés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé, Camille Braun, d'éthique, d'attention au langage. Non seulement Iris Murdoch a choisi quand même d'écrire des romans, et elle a choisi aussi, par exemple, à travers l'extrait qu'on a entendu, de travailler sur le langage, c'est-à-dire comment faire entendre cette dimension pathétique. C'est-à-dire que c'est pas que nous qui lisons, ou Bradley qui est spectateur de cette scène, qui a pitié, c'est aussi elle qui essaye de dire quelque chose avec ses mots, de faire comprendre de sa situation. Est-ce que là, on peut dire déjà qu'il y a un travail d'éthique, d'attention au langage ?
Oui, tout à fait, tout à fait, parce qu'on voit que Rachel essaie d'être entendue, Malheureusement, elle ne l'est pas, parce que en fait, Bradley, il est complètement inattentif à la souffrance des autres. Et dans un article que j'avais écrit, justement, j'avais voulu montrer l'influence de Simone Veil aussi dans les romans, en fait, d'Iris Murdoch, parce que ce soit Bradley dans The Black Prince ou Charles dans Deci, ou plein d'autres personnages, Hilary dans Un enfant des mots, en fait, ils sont profondément inattentif à la souffrance des autres. Or, chez Simone Veil, l'attention n'existe qu'à partir du moment où on reconnaît la souffrance, où on la capte, où elle est sensible, en fait, pour nous. Or, on voit bien chez Bradley qu'en fait, la souffrance le dégoûte. Donc, il ne peut pas être attentif aux personnes pour autant qu'il est persuadé d'aimer. Par exemple, avec Julianne, donc, alors c'est horrible parce qu'en fait, au départ, il va séduire Rachel. Bradley, enfin, elle est déjà un petit peu séduite par lui, mais il va la séduire. Et en fait, ensuite, il va rencontrer Julianne, sa fille, qui est quand même à peu près 18 ans, on ne sait
pas trop. La vingtaine.
La vingtaine, à un moment donné, elle dit qu'elle paraissait avoir 12 ans.
Oui, il se souvient d'elle quand elle était enfant.
Donc, c'est quand même un petit peu gênant. qu'il soit tout de suite séduit par quelqu'un qui paraît avoir 12 ans. Et donc, il lâche complètement Rachel. Et puis, alors, il a des propos extrêmement misogynes. Il dit que, voilà, une fois passé 40 ans, une femme devient hystérique. Et puis, donc, voilà, Rachel, ensuite, il lui dit, mais tais-toi, prends un aspirine. Enfin, bon, il est vraiment odieux. Et en fait, il va tomber fou amoureux. Enfin, il pense tomber fou amoureux de Julianne, donc la fille de Arnold et Rachel. Il va la kidnapper à la campagne. Enfin bref, et penser qu'en fait, cet amour soudain va lui donner l'inspiration. Et c'est pour ça que, en fait, The Black Prince, c'est une référence au prince noir, donc à l'héros noir. Donc en gros, la source d'inspiration, le stimulateur de l'artiste, en fait. Bradley attend avec impatience cette inspiration qui va surgir, et il pense qu'elle arrive, en fait, dans la forme de Julianne. Or, tout le but de l'écriture de Murdoch, c'est de dire qu'il ne parvient pas, en fait, véritablement à l'aimer, parce qu'il est inattentif à elle, à ses désirs, à ses désirs d'écriture aussi. Finalement, en fait, il la voit que pour lui, en fait, que pour que lui réussisse à être écrivain, mais pas pour elle.
Et d'un point de vue justement de cette scène, dans ce qu'elle décrit, ce qu'on a parlé de ces héros masculins qui sont quand même en échec, donc c'est des héros paradoxaux. Il y a aussi donc cette constellation de personnages féminins. On a parlé de Julianne, la fille. On a entendu Rachel. Il y a aussi Priscilla dans d'autres romans. On pourrait parler d'Anna dans Sous le filet, ou encore de Hartley dans La mer, qui est un des romans les plus connus de Iris Murdoch, qui est paru en 1978. Ces femmes-là, elles sont toujours le support de projection ou alors la voix quand elles peuvent parler de situations de domination. Comment vous les voyez-vous, Camille Braun? Justement, à travers le travail sur le langage Iris Murdoch, comment elle leur donne la parole? Comment elle fait entendre cette situation, soit d'être un support de projection, soit de voix de situation de détresse?
Elles sont des supports de projection, elles sont aussi, elles, pour le coup, dans des postures d'attention. C'était une philosophe qui, dans les années 80, c'était la première à avoir fait sa thèse sur Iris Murdoch. Elle s'appelle Gabrielle Griffin. Elle montrait qu'en fait, finalement, s'il y a une éducation à l'attention dans les romans d'Iris Murdoch, elle est finalement beaucoup plus radicale pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'en fait, pour nous, on est déjà éduqués, la société nous éduque à ça, à être dans des postures d'attention, de soins permanentes. Alors que, en fait, pour les hommes, on leur demande pas tellement d'être dans l'attention. Et donc, dans les romans, c'est pas finalement anodin que ce soit des hommes qui sont mis précisément dans des situations d'échec, dans des situations d'égoïsme pur, dans des situations de machisme. Donc, pour moi, le fait qu'Iris Murdoch mette les femmes dans ces postures-là, c'est déjà tout simplement un reflet réaliste de l'époque dans laquelle elle est, qui peut être toujours notre époque aujourd'hui. Donc là, on a déjà un féminisme, mais qui ne se revendique pas en tant que tel, mais qui juste est
en étant descriptif.
Voilà, simplement. Et puis c'est surtout extrêmement drôle, en fait. C'est un féminisme que je trouve intelligent, parce qu'en fait, il montre par l'absurde des situations de domination, mais sans nous dire, bon bah voilà, sans porter jugement moral, en fait. C'est juste, par la littérature, je trouve que cette éthique se diffuse magistralement, parce qu'en fait, on rigole beaucoup vraiment, enfin moi je trouve qu'on rigole.
En fait, on peut avoir les deux.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des situations vraiment drôles, vraiment cocasses, mais on peut aussi être très premier degré.
Oui.
Et être pétrifié par ce héros qui n'arrive pas à agir, qui est complètement impuissant, ces femmes qui sont pathétiques. On peut juste, en fait, être presque dans un état de frustration.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là où Iris Murdoch, voilà, nous redonne un petit peu de pouvoir, c'est dans l'interprétation et dans le jugement. Qu'on peut faire sur ces narrateurs. Parce qu'en même temps, par exemple, si Bradley, je le trouve aussi personnellement détestable, c'est vrai que Charles, dans La Mère, pour le coup, il est un petit peu plus attendrissant. Même si, quand il retrouve son amour de jeunesse, pareil à nouveau, il est convaincu de l'aimer, mais en fait, il échoue à l'aimer parce que il la kidnappe, il l'enferme, elle est dans tous ses états. Et puis lui, il dit, il est convaincu qu'elle va m'aimer une fois qu'elle l'aura réalisé. Sauf que c'est un petit peu absurde, extrêmement violent. Et puis Charles, quand même, il cherche dans ce roman à atteindre une forme de perfection, comme tous les autres en fait personnages des romans d'Iris Murdoch. Ils cherchent tous en fait à réussir. Ils cherchent tous à s'améliorer. Mais là où Murdoch nous explique subtilement quelque chose, c'est que on peut pas vraiment s'améliorer et atteindre le bien, parce que c'est quand même un thème très important dans les romans d'Iris Murdoch, cette quête du bien. On peut pas y arriver déjà en répétant constamment nos erreurs, alors qu'on est conscient qu'on les répète constamment. Par exemple, Charles ou Bradley, ils voient bien qu'ils ont échoué à aimer des femmes, mais ils sont convaincus que ces nouvelles femmes, ils vont bien les traiter et bien les aimer. Donc c'est quand même intéressant du point de vue des mécanismes en fait d'amour humain, pourquoi on plonge constamment dans des nouvelles histoires en étant persuadé que là c'est la bonne personne, on va y arriver. Mais en fait, on n'a pas appris qu'est-ce que ça voulait dire qu'être véritablement attentif. Et qu'est-ce que c'est que véritablement en fait aimer l'autre ?
Vous avez dit les mots, Camille Braun, on n'a pas appris ce que ça voulait dire. On va entendre tout de suite un extrait d'un texte d'Iris Murdoch qui n'a pas été traduit en français. Vous donnerez le titre après qu'on l'ait entendu. Je vous laisse le soin de le dire avec votre bel anglais.
Nous apprenons la langue dans des contextes où notre vocabulaire s'enrichit et idéalement s'affine dans les processus quotidiens de la vie et de l'apprentissage. Nous apprenons des concepts moraux, non seulement vrais et bons, mais aussi un grand nombre de termes moraux secondaires plus spécialisés, qui sont pour nous des instruments de discrimination et des mentors du désir. Je veux parler de mots comme généreux, doux, insouciant, envieux, honnête, et ainsi de suite. Ce sont des concepts qui, à leur tour, éclairent d'autres concepts, comme lorsque nous distinguons la curiosité sympathique de la curiosité impertinente et un sourire tendre d'un sourire moqueur. C'est la texture même de l'être et de la conscience qui se tisse et fonctionne d'instant en instant dans le langage.
Alors un extrait d'Iris Murdoch, dites-nous le titre, Camille Braun.
Metaphysics as a guide to morals.
Alors comment on pourrait le traduire ?
La métaphysique comme guide pour la morale.
Donc c'est paru en 1992, c'est toujours pas traduit en français, on espère bientôt. Et il est très clair dans ce texte, alors que dans ses romans, vous l'avez très bien dit Camille Braun, Iris Murdoch décrit, il y a une forme de réalisme, décrit la situation d'inégalité entre les hommes et les femmes. Là, son éthique est une éthique d'attention à l'autre à travers les personnages, ou une éthique d'inattention, on pourrait dire. Et là, elle dépasse quand même la dimension purement descriptive à travers le langage. Elle va carrément nous dire qu'il y a un apprentissage par le langage. On apprend à dire ce que ça veut dire. Et donc, apprendre ce que ça veut dire apprendre à l'être aussi.
Oui, tout à fait. En fait, et c'est là que l'éthique de l'attention et l'attention au langage se rejoignent. C'est-à-dire que donc dans les années toujours 50-60, elle a un collègue, Iris Murdoch, à Oxford, qui s'appelle Richard Hare, qui écrit un ouvrage qui s'intitule « Le langage de la morale ». Et en fait, lui, pour le coup, est extrêmement populaire, un succès fou. Iris Murdoch n'est toujours pas vraiment connue, reconnue en tant que philosophe. Sauf qu'en fait, elle pense le langage complètement différemment de lui et elle va commencer à réaliser que la philosophie morale se trompe et qu'en fait les termes de la philosophie morale sont peut-être pas exactement définis de la bonne manière. Donc des termes comme bien, amour, justice, bon, on les utilise depuis longtemps, mais en fait on en a vraiment perdu la substance. Et en fait, à ce moment-là, elle va écrire, donc en ayant lu Simone Weil, elle va écrire qu'il faut un nouveau concept pour la philosophie morale qui est celui de l'attention. Et elle explique qu'il faut vraiment faire un travail de philosophie du langage sur tous ces mots qui diffusent la moralité dans la société. Mais en fait, on n'en comprend plus bien le sens.
En fait, il ne faut pas trouver des nouveaux mots. Il ne faut pas forcément travailler sur des nouvelles formes.
Exactement.
Et on peut penser aujourd'hui, par exemple, à l'écriture inclusive. Il faut surtout, en fait, déjà apprendre à complexifier, à donner d'autres définitions aux mots que l'on connaît déjà et qui désignent des valeurs, des états moraux.
C'est exactement ça. Oui, en fait, elle écrit une phrase, justement, où elle dit « il faut réapprofondir nos concepts ». Et c'est tout à fait juste parce que, par exemple, un terme comme l'amour, il est déjà suffisamment puissant. On n'a pas forcément besoin d'inventer un nouveau mot pour l'amour. Par contre, ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'est-ce qu'il signifie et comment il peut inclure toutes les formes d'amour et comment il peut ne pas exclure surtout des types d'amour. Et précisément dans les années 50-60, l'amour exclut l'amour homosexuel dans la société d'Iris Murdoch. Donc c'est pour ça qu'elle s'engage aussi dans quelque chose de linguistique, parce que pour elle, et c'est là où Wittgenstein, en fait, est extrêmement fort, même si elle a pas de recul, en fait, puisque les recherches philosophiques sont publiées, en fait, dans les années 50, et elle écrit à ce moment-là. Donc c'est très compliqué, elle a pas le recul de se dire bah, « je suis sous l'influence directe de Wittgenstein », mais en fait, elle l'est. Parce que quand elle pense... les concepts, quand elle pense que pour s'améliorer au quotidien, en fait, ça passe par le langage et ça passe par notre manière de définir les personnes que l'on aime ou les manières de définir aussi les personnes que l'on n'aime pas. Pourquoi on les aime pas? Pourquoi on les définit comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de snobisme? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de mépris?
Ou d'injustice.
D'injustice, exactement. Et donc, tout ça, en fait, elle est vraiment une base aujourd'hui, Iris Murdoch, pour l'éthique féministe et l'éthique féministe linguistique, en fait.
Parce... Est-ce que ça, c'est l'éthique linguistique féministe? Est-ce que c'est Iris Murdoch qui l'incarne, en fait? Le perfectionnisme moral dont il est question à travers l'apprentissage, l'affinage de ces concepts moraux, est-ce qu'on peut dire qu'il est langagier, linguistique et donc féministe? Est-ce qu'il n'y a que elle qui fait ça?
Non. Alors, là où c'est juste un tout petit peu différent, c'est que, juste pour préciser, pour Wittgenstein, s'il y a l'attention au langage, c'est-à-dire le fait qu'il faut, pour comprendre en fait la vie humaine, il faut aller du côté du langage et voir un peu ses pratiques de vie, ses formes de vie dans notre langage, il s'arrête un petit peu là. Alors qu'avec Iris Murdoch, elle donne une dimension morale à ça, à l'attention au langage. Donc, il y a quand même un prolongement. Après, aujourd'hui, il y a tout un courant qu'on appelle l'éthique conceptuelle, l'ingénierie conceptuelle, qui parle pas du tout, en soi, d'Iris Murdoch, mais par contre, qui parle du fait que nos concepts, on peut les penser dans une forme d'ingénierie, c'est-à-dire qu'ils se forment en permanence, ils se déforment, ils se recomposent, et tout ça, en fait, c'est traversé par l'éthique, parce que quand on parle, quand on juge, ce qui est très important aussi pour Iris Murdoch, c'est l'autocritique. C'est très, très, très important. C'est-à-dire pour ne pas se figer dans des comportements ou dans des illusions de on a réussi, c'est d'être constamment dans une autocritique. Et l'enquête conceptuelle, c'est ça, en fait. Et le dernier point, c'est que pour Iris Murdoch, en fait, notre langage est historique. Et c'est là où c'est intéressant pour le féminisme, c'est-à-dire qu'il charrie aussi beaucoup de choses dans l'histoire, beaucoup de rapports de classe, de domination, d'exclusion, etc. Et elle, ce qu'elle montre, c'est que si on veut redéfinir la personne humaine, il faut absolument revoir en fait les concepts qu'on utilise pour nous définir, pour agir, etc. Et donc elle montre, et c'est là où toute sa philosophie morale fait sens, c'est que l'action, le choix, tout ça, ça existe toujours, en fait. C'est pas du tout supprimé dans une forme de philosophie idéaliste, platonicienne, pas du tout, du tout.
Mais c'est pas sa morale à elle.
Sa morale à elle, je dirais que c'est que, en fait, on peut comment devenir moralement meilleur et comment le faire par le langage. Parce que quand même, elle a dans beaucoup de ses essais montré que les mots sont quand même la substance ultime de notre être. C'est ce qu'elle écrit quand même dans... Juste dans Existentialist and Mystics, il y a quand même des articles qui ont été traduits dans un ouvrage qui s'appelle L'attention romanesque. Et dedans, elle écrit un essai qui s'appelle Le salut par les mots, où elle montre qu'en fait, le stade ultime de perfectionnement de soi, ça passe par les mots et voilà.
Par la texture des mots.
La texture des mots, exactement.
Merci beaucoup, Camille Braun. De vous, on peut lire donc vos articles. Je cite celui-ci paru en français, c'est Une éthique si ordinaire, paru dans la revue Filon Sorbonne, c'était en novembre dernier. Bientôt, on pourra peut-être vous lire. Vous soutenez votre thèse, ce sera quand?
En juillet 2025.
Bon, ça va, ça se prépare bien?
Oui, très bien. Merci beaucoup.
Et ben, on vous souhaite bon courage. Et lisez aussi Le Quartet d'Oxford, quand Elisabeth Anscombe, Philippa Foot, Marie Midgley et Iris Murdoch réinventaient la philosophie. C'est de Claire Mac Kenail et Raquel Wiesman. C'est disponible aux éditions Flammarion. Et lisez aussi, auditrice, auditeur, Le Prince Noir et La Mer d'Iris Murdoch, tous deux disponibles aux éditions Gallimard.
Pourquoi l'ami n'est-il pas seulement le contraire de l'ennemi? Parmi les définitions de l'amitié, les définitions de ce qu'est un ami pour un être humain, de manière profonde, car c'est un sujet d'émerveillement et d'énigme et parfois de fascination que l'amitié, comme l'amour entre les humains, parmi les définitions de l'amitié, donc il y en a une qui a tendu à dominer et qui la définit au moins de manière politique ou qui définit l'amitié par la politique, qui risque aussi de réduire l'amitié à la politique, c'est celle qui va définir l'ami par opposition avec son contraire, c'est-à-dire par opposition avec l'ennemi. Il y a même des définitions de la politique, comme chez, c'est le cas de façon fameuse, chez le juriste allemand du début du XXe siècle, Carl Schmitt, il y a des définitions de la politique par l'opposition de l'ami et de l'ennemi. Et d'une certaine façon, contre une certaine naïveté qui consiste à penser qu'on peut être ami avec tout le monde, Carl Schmitt, et ce n'est pas seulement pour cette raison qu'il a mal tourné à l'époque du nazisme. Carl Schmitt, donc, définissait la politique par le fait d'assumer l'opposition des amis et des ennemis, c'est-à-dire de ceux qui nous veulent du bien. C'est finalement la première définition de l'amitié, qui nous veulent du bien pour nous-mêmes, un peu comme dans l'amour, et ceux qui nous veulent du mal, l'ennemi étant celui qui constitutivement nous veut du mal. Le monde se diviserait donc en deux, les amis et les ennemis, et l'ami se réduirait justement à ce contraire d'un ennemi qu'on pourrait toujours définir par cette hostilité essentielle ou au contraire cette bienveillance essentielle qui définit une communauté fermée sur elle-même contre ceux qui viennent la menacer. Mais l'amitié se réduit-elle au contraire de l'inimitié, au contraire de l'hostilité? L'ami est-il seulement le contraire de l'ennemi? Nous savons bien, d'abord de façon positive, heureusement, que l'ami n'est jamais seulement le contraire de l'ennemi. Nous ne pensons pas à nos ennemis quand nous sommes avec nos amis. Il y a des ennemis, il faut le reconnaître, il y a de la méchanceté réelle entre les humains, il y a de la haine, mais quand nous sommes dans l'amour, nous oublions la haine, c'est même sa force, sa générosité, comme disait Jean Kelevitch. Et quand vous êtes avec vos amis, j'espère bien que vous oubliez vos ennemis. Quand vous êtes dans l'amitié, on parle du tout, on refait le monde, mais on oublie ceux qui le détruisent. Mais ce n'est pas seulement du côté du bien, en réalité, que l'ami ne se réduit pas, au contraire de l'ennemi. Il faut au contraire considérer, comme toujours, que l'amitié porte en elle, de l'intérieur, le risque d'une inimitié peut-être plus violente encore que celle des ennemis avec laquelle on n'a aucun lien. La pire expérience de l'inimitié, c'est celle qui surgit de l'intérieur de l'amitié elle-même, peut-être par l'expérience de la trahison, en particulier l'expérience de la trahison, de la tromperie ou de la haine qui se mêlent et parfois qui remportent sur l'amour. Il y a des amitiés qui sont viciées de l'intérieur par leur contraire et alors ce sont les pires ennemis, ceux qui ont été nos amis. L'amitié doit donc lutter contre sa violation propre, celle de la trahison, car seuls des amis, on le sait bien, peuvent se trahir. La trahison ne peut intervenir qu'entre des amis. Il faut donc considérer que l'amitié ne se réduit pas à un contraire statique, politique, idéologique d'un groupe d'ennemis essentialisé. C'est deux fois naïf. D'abord, parce que l'amitié l'emporte sur l'inimitié, qu'on peut devenir ami avec des ennemis, on peut faire la paix, on peut même s'aimer. Après s'être disputé, voire pire, peut-être pas tout, malgré tout, toutes les réconciliations ne sont pas toujours possibles, mais il faut aussi se souvenir que l'amitié est hantée par le spectre d'inimitié, pire que toutes les autres, et qu'ainsi, l'ami est deux fois plus profond, pour le meilleur et pour le pire, que le contraire de son pauvre contraire, l'ennemi en tant que tel.
C'était la chronique Le pourquoi du comment de Frédéric Worms que je n'ai pas annoncé. Donc vous l'avez entendu, merci à lui et merci à toute l'équipe. Antoine Ravon, Philippine de Bellois, Anna Fulpin, Carla Michel, Shaima Jiboire à la réalisation, Riyad Kera à la prise de son, Dali Ya pour retrouver, réécouter toutes ces émissions, toute cette série sur Iris Murdoch. Rendez-vous sur le site de Radio France et sur l'application Radio France.